18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver chers amis auditeurs. Quel plaisir, vous savez, quel plaisir parce que quand on démarre une toute nouvelle semaine, on se dit voilà, on va essayer évidemment de vous embarquer dans cette actualité, mais vous donner aussi parfois voilà des éléments positifs qui puissent égayer un peu votre quotidien. Bon, en tout cas, au sommaire, pour démarrer cette semaine, tiens, je voulais faire un petit message. Un petit message particulier, parce que hier, il faisait le parallèle, beaucoup d'entre vous, les auditeurs, partout en France, vous faisiez le parallèle entre Beurre FM et si je faisais de la télé. Oui, je suis éditorialiste politique sur LCI, donc j'ai reçu plein de messages qui se disaient, tiens, là, qu'ils étaient extrêmement surpris de me voir sur le plateau d'LCI. Je vous promets, j'ai reçu pas mal de messages de félicitations, de fierté. Eh bien, écoutez, je voulais le faire là maintenant. Merci à vous tous. Oui, en effet, je suis éditorialiste politique sur LCI. Jusqu'ici, je ne l'avais pas dit. Le vendredi, le samedi et le dimanche, vous pouvez me voir, effectivement. Et merci, un grand merci à vous pour tous les messages que j'ai reçus. Et en plus, ça venait de toute la France. Bon, voilà, c'est les auditeurs, comme quoi ils suivent et ils sont fidèles. Au sommaire de cette émission, la mise en retrait, d'Adrien Quatennens, la France insoumise dans un état de sidération. Ça, c'est les déclarations de Manon Aubry. Oui, on en parle et ça fait polémique. Jean-Luc Mélenchon qui fait un tweet, qui parle d'Adrien, mais qui oublie sa compagne, Céline. Pas un mot sur elle, sauf il a fait un petit rétropédalage et il a reconnu qu'il n'a pas parlé d'elle parce qu'elle ne souhaitait pas. Tiens. Ça mérite une clochette quand même, c'est vrai. Je sais que notre patronne n'aime pas trop la clochette, mais je vais veiller, comment dirais-je, à ne pas en mettre trop. Voilà, ne pas envahir l'antenne. Voilà, c'était la clochette d'avertissement. Les 7 vérités, on va en parler, c'est la réforme des retraites. Ça, c'est Emmanuel Macron qui se trouve un peu dans une passe ou dans une impasse. Biden qui affirme que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Je vous préviens, mes chers amis chinois, si ça commence à me titiller, eh bien je fais comme Vladimir Poutine. Mais comment on peut reprocher à Vladimir Poutine d'ouvrir la guerre et en même temps de l'autre, de menacer Xi Jinping? Oh, clochette! Pardon, Gemma, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. C'est comme ça. Ensuite, eh bien, nous reviendrons, vous savez quoi, sur un sujet qui fait polémique. Direction avec notre invité, Monsieur Adama Traoré, qui a fait une assignation, mais qui en même temps, j'ai repris l'opinion, le journal, qui parle d'un article. J'ai pris le temps de regarder tout ça, on va en parler avec Monsieur Adama Traoré, qui est à l'initiative de cette affaire, cette polémique qui prend forme. Tout à l'heure, le face-à-face, c'est avec Rudy Kazi, un élu, mais également Jimmy Dalidou, un syndicaliste. Le face-à-face s'annonce, évidemment, fructueux et constructif. On le verra bien. Mais alors, surtout, les informés, c'est qui? C'est vous, partout en France. 01 53 48 3000, vous pouvez m'appeler et me dire, est-ce que vous considérez que cette affaire d'Adrien Quatennens, le député la NUPES, la France Insoumise, est-ce qu'il a eu raison de se mettre en retrait? Est-ce qu'il aurait dû conserver sa casquette de coordination? Est-ce que vous trouvez que cette affaire, on en fait trop? Est-ce que vous trouvez que la NUPES et Jean-Luc Mélenchon, c'est des donneurs de leçons et qu'il y en a marre? Il faut dénoncer tout ça, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup. Ça les a un peu entachés, c'est ce que je disais hier. Eh bien, 01 53 48 3000, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, c'est parti!
Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Le réalisateur, il est en forme, hein, comme chaque soir. Giovanni, bonjour, monsieur Adama Traoré. Allô? Vous êtes là? Bonjour, allô. Allô Adama Traoré.
Allô, oui, je suis là.
Vous nous aviez quitté un moment. Comment ça va?
Ah non, ça va bien. J'étais à fond dans ton allocution et j'étais content pour toi, pour tes nouvelles fonctions à LCI. Et
merci.
Moi aussi, je tiens à te féliciter, à te souhaiter que de bonnes choses et j'espère que tu feras briller de tout ton éclat de de gaieté, de bonté et de bienveillance dans LCI et démontrer que dans nos quartiers et dans nos cités, on n'est pas que résolu ou réduit à notre profession.
Ouh là là, après tout ça, c'est une lourde responsabilité, là. En tout cas, merci beaucoup, Adama Traoré. Comment vous présentez aujourd'hui, parce que vous êtes militant, acteur, évidemment, politique très actif hein, sur les sujets, évidemment, qui vous concernent. Comment vous présentez en un mot aujourd'hui, parce que vous avez une multitude de casquettes, Adama Traoré?
Révolutionnaire.
D'ailleurs, c'est un peu votre mouvement, hein.
Ah oui, le mouvement s'appelle la Révolution en marche. Et moi, je me qualifie comme un révolutionnaire des temps modernes. On mène une révolution philosophique afin de prôner le savoir vivre ensemble et le faire ensemble, gommer les inégalités sociales, mais surtout démontrer que tout à chacun a une force en lui. Et aujourd'hui, en France, on a assez d'administrations qui prônent normalement un pouvoir ascendant, qui permet normalement à tout à chacun de se réapproprier son environnement via des outils politiques, financiers, intellectuels. Mais malheureusement, dans nos quartiers et dans nos cités, on est trop stigmatisé pour pouvoir en bénéficier. Donc, pourquoi mène la révolution est en marche.
Adama Traoré, pour quelle raison d'ailleurs vous continuez de faire polémique? Pourquoi on parle de vous à chaque fois en permanence en citant que vous êtes polémiste, que vous êtes dans la polémique, que vous posez problème, que vous dérangez? Qu'est-ce qui dérange?
Car on me relègue ou on me donne l'image d'un grand noir de cité, de quartier, de confession musulmane qui peut être violent et qui a un passé de délinquant, alors que je suis un Français à part entière, qui prône une révolution philosophique, qui demande à tout un chacun de pouvoir juger les actes et uniquement les actes avant de se prononcer sur ma personne. Et malheureusement, aujourd'hui, la critique facile est facile. Et la critique constructive demande un certain degré d'instruction que beaucoup n'ont pas aujourd'hui en France, malheureusement. Et c'est pour cela que la révolution philosophique passe par l'instruction est une obligation.
Justement, il y a une actualité qui vous concerne, Adama Traoré. Une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris. Alors parlons-en justement. C'est vous qui, et cette affaire, quelle est la raison pour laquelle vous vous retrouvez évidemment au milieu de tout ça?
C'est pas à moi, c'est pas à nous, c'est la majorité silencieuse de confession musulmane ou de non. Confession musulmane. Pourquoi? Car le 2 juin 2022, une journaliste de l'Opinion s'est permise de faire un article qualifiant les tenues
que j'ai sous les yeux
d'épidémie. C'est très grave. Elle a dit clairement que
l'éducation nationale confrontée à une épidémie de tenues islamiques.
Très grave. C'est la première fois de ma vie, de mon vivant, j'ai bientôt 40 ans, que j'ai entendu une aussi grande insulte à l'endroit de toute une minorité en France. C'est très grave. Et le pire de cela, c'est que dans la même journée du 2 juin 2022, elle s'est rendue sur les plateaux de BFM TV. Elle s'est permise de faire un parallèle macabre entre les tenues jugées islamiques et la mort de Samuel Paty, disant comme quoi, lorsqu'on voit une recrudescence de tenues islamiques, ça peut prévenir des attentats.
Mais est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que le phénomène a récemment pris? Est-ce qu'il avait pris de l'ampleur à l'époque? Est-ce que vous l'affirmiez ou vous l'infirmiez? Est-ce que les défis face justement qui a été provoqué par les réseaux sociaux incitant les jeunes à tester les responsables des lycées? Est-ce qu'il y a du prosélytisme affirmé? Franchement, parlons-en.
Après moi, je vais pas te mentir par rapport à ma réalité et surtout connaissant nos parents, jamais ils laisseront un de leurs enfants se vêtir en tenue islamique et aller à l'école. Je ne connais pas. Et si ça aurait eu pignon sur rue, croyez-moi, on l'aurait eu écho, nous déjà, les premiers acteurs de terrain, travaillant dans des quartiers dits populaires. Donc aujourd'hui, cela met en exergue que les personnes qui ont une confession dite musulmane sont stigmatisées dans ce pays. Et ouvertement, car aujourd'hui, c'est le régime républicain, via ses élites politiques, journalistes, éditorialistes, qui se permettent de dire des choses qui sont d'une faiblesse intellectuelle, mais sur des canaux de grande audience, tels que BFM TV, tels que L'Opinion, tels que CNews, tels que parfois LCI. Et nous, aujourd'hui, des personnes comme moi, révolutionnaires, prônant toute action via le droit, eh ben on est dans l'obligation d'assigner ce genre de personnage devant les tribunaux.
Donc l'assignation, c'est vous qui l'avez provoqué?
On l'a provoqué, on l'a rédigé et on l'a payé.
Et vous l'avez payé. Donc la date, vous l'avez la date pour l'assignation?
C'est après-demain, c'est le 21 septembre exactement à 13h30. à la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Et je tiens vraiment à signifier, à souligner en gras que c'est une révolution si l'assignation est retenue. Pourquoi ? Car nous sommes une association avant toute chose. On se nomme Force Citoyenne, basée sur la loi de 1901. On est existant depuis plus de 5 ans. Et en France, lorsqu'on est une association régie par la loi de 1901 et qui est effective depuis plus de 5 ans, on peut assigner toute personne morale ou toute personne physique qui est coupable, qui se rend coupable de fait de discrimination liée à une religion supposée ou réelle.
Donc une assignation, c'est en direction d'Opinion, le journal.
Ouais, le journal, non. L'assignation, elle est faite à l'endroit de la journaliste, à l'endroit du directeur de publication de l'Opinion et le directeur de publication de BFM TV. Et c'est ce mercredi à 13h30 au tribunal judiciaire de Paris.
Qu'est-ce que vous attendez du tribunal judiciaire de Paris, Adama Traoré ?
Déjà que cette journaliste soit condamnée, car elle va être condamnée de toute façon, car les faits sont manifestes. Pour manifester la vérité en France, il faut le fait, l'intention et le droit. Et en l'occurrence, par rapport à tout ce qu'on a édicté sur notre acte juridique, on est sûr qu'elle sera condamnée. Mais plus en filigrane, c'est vraiment que nous, Français humanistes, Français de confession musulmane ou non, on a le devoir de se réveiller.
On a le devoir. Mais justement, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs quand vous dites on a le devoir de se réveiller ? Ça veut dire quoi, se réveiller ? Pourquoi et pour faire quoi ?
Il faut qu'on arrête lorsque on se sent stigmatisé par le biais de notre religion, de réagir en tant que musulman. Nous sommes des Français à part entière avant toute chose.
Vous savez quoi, Adama Traoré, je vais lancer le sujet. Je vais demander à nos auditeurs. Non, mais c'est vrai. J'ai envie de comprendre. Est-ce que les musulmans, les Français de confession musulmane, dorment? Ça veut dire quoi là? Tout ce qui peut évidemment concerner la religion de l'islam, les concerner dans les quartiers populaires. Est-ce qu'ils se sentent concernés ou pas? Ou est-ce qu'ils laissent passer, ils laissent couler? Ou est-ce que c'est une indifférence totale?
Non, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas de personne endormie. C'est juste aujourd'hui, on n'a pas eu assez d'instructions, on ne se sent pas capable de pouvoir lutter à travers le droit afin de faire valoir notre droit à la différence, oui. Notre droit à l'application, à vivre notre religion pleinement. Mais je dis vraiment pleinement, en termes de tenue vestimentaire.
Je vais demander, je vais poser la question. Non, mais je vais ouvrir l'antenne. 0153 38 3000. Je vais demander à nos auditeurs. Pour ceux, évidemment, est-ce qu'ils vivent leur religion pleinement ? Ça là, sans polémique, sans tracas qui viennent empêcher, évidemment, de vivre leur religion.
Mais pour aller plus loin, nous, notre objectif, c'est pas non plus de jouer la carte de la victimisation, loin de là. Bien au contraire, on est des révolutionnaires et nous on dit aujourd'hui à partir du moment que sur le territoire national, qu'une personne physique ou une personne morale se permet de stigmatiser une religion du livre, une personne liée à son identité, c'est-à-dire à sa religion, à son identité de genre, à son orientation sexuelle, à sa zone géographique, à son statut social, peu importe, à partir du moment où c'est lié à son identité, eh ben on a le devoir de le poursuivre à travers les tribunaux. Et aujourd'hui, la France nous donne les outils juridiques et administratif afin de pouvoir assigner ce genre de personnage tel qu'on a fait avec la journaliste de l'Opinion.
J'ai bien compris, pour vous, cet article, ça passe pas. L'épidémie, c'est une insulte, justement, en direction des Français de confession musulmane.
Mais Adil, s'il vous plaît, on a vécu 2 ans, et encore jusqu'à présent, on est sous administration liée au Covid-19. Pour aller au médecin, on est obligé de mettre un masque. On a eu plus de 130 000 personnes qui sont mortes par rapport au Covid-19, liées au Covid-19, où on attrape le Covid-19 et ensuite sont morts de ce genre de virus. C'est une journaliste, avec l'intellect qu'elle a, car c'est une grande reporter pour le Figaro, elle a voyagé dans les quatre coins du monde, a fait un article et elle assimile des tenues vestimentaires liées à une religion déterminée dont l'islam a une épidémie. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Si vous avez déjà entendu ça sur BRFM, dites-moi. J'ai envie de savoir.
Je vais ouvrir l'antenne. Je vais entendre nos auditeurs.
Mais moi, monsieur, ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'il y a une indifférence totale des pouvoirs publics, il y a une indifférence totale des associations qui luttent normalement contre la discrimination qui est à l'endroit des religions du livre ou des religions déterminées ou soi-disant d'une minorité en France. Là, ça dénote qu'aujourd'hui, nous, Français de confession musulmane ou autre, humanistes, on a le devoir de s'organiser en tant que tel.
Car aujourd'hui,
il y a une droite identitaire qui fomente un fantasme à l'endroit des Français de confession musulmane qui est très dangereux.
Merci Adama Traoré, la révolution est en marche. On l'aura compris, vous êtes le fondateur de ce mouvement. Eh bien, vous nous tenez au courant mercredi prochain ?
Avec plaisir.
Merci à vous. Je vais ouvrir l'antenne, tiens. Je marque la pause, mais je voudrais surtout vous entendre partout en France, nous appeler et nous dire effectivement comment vous vivez la religion de l'islam. Est-ce que, évidemment, comme vient de le souligner Adama Traoré, qualifié d'épidémie, cette tenue islamique, etc., bref, les qualificatifs qu'on veut, vous venez, vous nous appelez, vous nous livrez votre sentiment. Je voudrais qu'on en parle en toute aisance. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Si vous venez de nous retrouver, c'est l'heure des auditeurs, c'est votre moment à vous, c'est parti.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Et avant de retrouver le face-à-face avec Jimmy Dalido et Rudy Kazi, tout de suite, direction, eh bien, Épinay-sur-Seine avec Lazare. Lazare est-il là ? Ah, Lazare est parti. Eh bien, Lazare, rappelez-nous, Ikram de Paris. Bonsoir, Ikram, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, ma chère Ikram.
Vous allez bien ?
Pourquoi vous rigolez ?
Parce que je pensais pas que j'allais être triste. J'ai appelé au hasard et je pensais pas que ça allait être aussi rapide.
Bah si, pourquoi ?
Bah, la preuve ? C'est la première fois.
La preuve ?
C'est la première pour moi.
Ah, c'est la première pour vous ?
Bon, ouais, c'est une première pour moi.
Oh, c'était émouvant. On va lui mettre une petite musique pour l'accompagner, pour lui dire bienvenue. Giovanni va nous trouver ça, voilà.
Ouais. J'ai un truc plus direct.
Ouais. Allez, ça y est, c'est bien, voilà, la clochette. Ikram, on vous écoute. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ikram ?
Je suis assistante administrative.
Bon, eh bien, on vous écoute.
Ben, moi, je voulais parler par rapport au sujet, juste avant. Par rapport à... Parce que j'ai entendu que il y avait un monsieur juste avant qui parlait et qui disait que l'islam était considéré comme une épidémie actuellement en France.
C'est pas lui qui dit ça. Hein. Attention, c'est pas lui qui dit ça. Il dit, il fait référence à un dossier d'enquête qui a été publié dans l'Opinion, un journal, par un grand reporter connu. Hein, et il regrettait de qualificatif, c'est-à-dire de qualifier l'islam et de tenue islamique d'épidémie.
D'accord, ok. Ah, parce que moi, en fait, je suis arrivée au dernier passage et je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être en parler aussi parce qu'on est un petit peu concerné.
L'éducation nationale confrontée à une épidémie de tenue islamique. Voilà le propos qui a fait polémique. On vous écoute.
D'accord. Ben, moi, avant tout, je trouve que c'est vrai que, après, on va pas dire que c'est une généralité, mais c'est vrai qu'actuellement, en France, c'est devenu un petit peu compliqué. De pouvoir pratiquer sa religion convenablement, mais après, je me dis qu'il y a eu des tenants et des aboutissants juste avant, ce qui fait que ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais ouais, je trouve que c'est dommage qu'on en fasse une généralité, parce que je me dis qu'au niveau de notre communauté, à nous en tant que musulmans, on arrive à faire la part des choses jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hein, moi, en tant que musulmane, je me dis qu'ils sont pas tous comme ça. Où est-ce qu'on va, hein ? On dit que c'est pas partout pareil, mais c'est dommage qu'eux n'ont pas cette vision aussi des choses. Enfin, que voilà, certaines personnes actuellement en France n'ont pas cette vision des choses.
Oui. Vous trouvez que c'est compliqué, Ikram ? Vraiment ?
Ben, moi, en tant que femme...
Donnez-nous des exemples. C'est quoi qui est compliqué ? C'est quoi qui est compliqué ? Quand on dépose un CV, quand tu veux pratiquer, quand on jeûne, enfin, c'est quoi ? Donnez-moi des éléments qui puisse parler à tout le monde.
Moi, je vais donner un exemple simple. En tant que femme musulmane et voilée, je trouve, par exemple, les vacances, c'est très compliqué en France.
Très compliqué. Pourquoi ? Donnez-nous des exemples. Soyez factuels.
Ouais. Dans le sens, par exemple, je vais donner des exemples. On n'est pas à l'aise. On va se baigner, je vais donner un exemple, hein. On va se baigner avec un burkini. Directement, on sent les regards, on sent certains commentaires un peu déplacés. Or, quand on voyage dans des pays voisins en Europe, en fait, on voit qu'il n'y a qu'en France où on ressent, on ressent ça. Et je vais donner un exemple simple encore, les restaurants, les terrasses en été en France, on a des commentaires, on voit Après, moi, Dieu merci, j'ai jamais subi voilà de discrimination particulière. Oui. Il y a des regards, mais bon, après moi, c'est pas quelque chose de moi. Tant qu'on me touche pas ou tant qu'on parle pas, ça ne m'atteint pas.
Oui.
Mais je sais que pour certains, ça met mal à l'aise. Et moi aussi, des fois, ça peut m'arriver que ça me mette mal à l'aise de voir des gens, ben, parce que je trouve ça injuste. Et je me dis que c'est dommage que ce phénomène existe vraiment qu'en France. Hein. Enfin, personnellement, avec les pays que j'ai pu voir en Europe, par exemple, un exemple tout simple, on me dit que j'ai entendu...
Pays d'Europe, c'est quoi les pays d'Europe, par exemple? Vous faites référence aux quelques pays d'Europe. Dites-nous bah, voilà. Là où ça se passe
bah,
bien.
Exemple, on, ouais. Bah, par exemple, moi, on m'avait dit que la Grèce était un pays raciste.
Oui.
C'était ce que, enfin, le cliché qu'on donnait sur la Grèce.
Oui.
Et ben, j'y étais cet été,
oui.
mais pas du tout, genre, et pourtant, les plages de la Grèce, elles sont magnifiques, mmh. Et les gens sont vraiment accueillants, je me suis plus pris des compliments que des commentaires,
mmh.
Mais vraiment, les gens étaient très accueillants, très avenants, on posait des questions par rapport à la religion. Et je me dis mais mince, c'est dommage qu'on ait pas ça en fait chez nous.
Et ça vous l'avez pas vous l'avez pas chez vous en France.
Ben ouais, c'est dommage que je me dis que dans mon pays ben j'ai pas le droit à ça et que c'est les voisins de mon pays qui me donnent ce sentiment d'être à l'aise, ce sentiment d'être accueillant alors que je sais pas, je trouvais ça dommage parce que vraiment j'étais vraiment très étonnée de voir comme la Grèce a été, mais pour moi c'est un pays vraiment magnifique. Après il n'y a pas eu que la Grèce, il y a par exemple l'Espagne, l'Espagne aussi, vraiment c'est... Bon j'ai fait en particulier Majorque, et pareil, j'ai pas senti de regard ou quoi que ce soit, et je me dis en fait c'est vraiment ce sentiment où on se sent mal à l'aise, c'est vraiment en France. Après voilà, je parle de où on se sent mal à l'aise. Je vais pas dire que j'ai subi quelque chose, mais je sais qu'il y a des, il y a des femmes musulmanes qui, elles, malheureusement, subissent des commentaires très déplacés, voire des fois des agressions. Et ouais, je trouve ça dommage, en fait, que...
Eh ben, écoutez, je vais laisser nos auditeurs partout en France réagir. C'était important de vous écouter, Ikram, nous dire effectivement comment vous vivez, vous, femmes voilées, et vos vacances, vos déplacements, comment vous vivez aussi le regard des autres. C'est vrai que ça, moi, je ne le vois pas, mais quand je vous entends nous raconter ça, j'essaie de mesurer un peu la chose. Merci, Ikram. Merci. Vous reviendrez ?
Oui, sûrement.
Ben oui, si ce n'est pas la première fois, vous reviendrez une seconde, une troisième, et puis etc.
Ouais, sûrement. Merci beaucoup.
Ben merci à vous. Prenez soin de vous. Zacharia qui nous appelle de Paris, 01 53 48 3000, je veux vous entendre partout en France, venez discuter, nous livrer votre point de vue concernant évidemment ce sujet. Bonjour Zacharia.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, vous?
Très bien, je vous remercie. Vous faites quoi dans la vie, Zacharia?
Je suis technicien dans l'électronique.
C'est bien ça, on en a besoin, vous savez qu'il y a une pénurie de techniciens dans l'électronique?
Ouais, j'ai entendu ça.
Ouais, il y a une pénurie. On cherche, on est à la recherche de techniciens.
On est en pénurie de toute façon aujourd'hui.
C'est vrai. Zacharia, je vous écoute.
Ouais, moi je voulais intervenir par rapport à l'intervention de M. Traoré.
Oui.
En fait, je pense que c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué, mais normalement on est censé être prévenu. En France, voilà, c'est pas un pays qui... Déjà, c'est un pays laïque, déjà, qui se revendique laïque. Donc forcément, la religion, normalement, qu'elle soit chrétienne, judaïque, islamique, ça colle pas avec cet état-là. On est conscient, on est au courant, tu vois. Donc forcément, je pense que c'est... Nous, on est habitué à faire deux fois plus de travail que certaines autres personnes. Mais maintenant, le mot épidémie, c'est vrai que c'est un peu fort.
Ouais, c'est fort. Ouais.
C'est un peu fort, surtout que je pense pas que l'éducation nationale fait quelque chose pour changer ces choses-là. Parce que si les gamins, à cet âge-là, déjà, on est en crise identitaire, on cherche à savoir qui on est. S'il y avait des personnes qui leur ressemblaient vraiment, je pense que dans les livres d'histoire, déjà, ça serait autre chose.
Voilà. Je sens quand même un malaise. Hein. Je sens qu'il y a...
Non, aucun malaise.
On est habitué. Ouais, mais c'est le mot « on est habitué » qui me dérange, moi. Justement, il ne faut pas s'habituer à ça.
Non, obligé. C'est factuel. C'est pas au bureau. Moi, je ne travaille pas qu'avec des musulmans. Je travaille avec des gens qui me font des blagues bizarres. Je suis obligé de l'accepter.
Ils vous font des blagues bizarres et vous finissez par l'accepter. C'est terrible ce que vous dites. Hein.
Non, je l'accepte parce que chacun son chacun. Moi, je vais pas aller plus que ça. Je ne vais pas m'énerver. Je suis là pour le boulot. Je suis pas là pour blaguer.
Ouais. Ouais, vous tombez pas dans la provocation facile.
Non, ça sert à rien. Mais c'est ça, c'est leur manière à eux de faire. Moi, j'accepte et à contrario, je les force à accepter qui je suis. Mmh.
Ça peut être aussi une bonne méthodologie. C'est pas faux, Zakaria. Bah, bon courage, prenez soin de vous, Zakaria.
Merci à vous aussi, courage à toi.
Merci, merci et merci. C'est surtout avec vous. Sabrina du 93, Fousillade de Paris. Sabrina, bonjour Sabrina.
Bonjour.
Quelle ville du 93, Sabrina ?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai 63 ans. J'ai toujours travaillé. Je suis musulmane. Je n'ai jamais porté le voile. Donc, ce qu'il faudrait dire à nos jeunes, essayez, vous qui êtes à la radio et vous êtes des jeunes, essayez de leur dire de respecter certaines choses, vivre leur vie et laisser les gens parler. Mmh. Parce que quoi qu'il en soit, ça fait 40 ans qu'on est insulté du matin jusqu'au soir et ça sera toujours comme ça. Donc,
c'est ça qui est redoutable. C'est-à-dire que c'est de 40 ans, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça et on vit.
Non, mais on ne va pas faire la guerre. Quoi qu'il en soit, il faut respecter, il faut expliquer l'islam. Et c'est l'ignorance, monsieur. Moi, j'ai eu des collègues, des cadres, j'ai travaillé dans une banque, j'ai expliqué ce que c'est l'islam et ils ont trouvé que c'était mieux l'islam, vous voyez ?
Ouais.
Donc on est beaucoup plus tolérant.
Et ben on va voir si la jeune génération entend votre message, Sabrina. Vous nous appelez de quelle ville ?
Je suis de Pierrefitte. Écoutez, il faut que ça soit, on dit toujours, quand les chiens aboient, laissez la caravane passe.
Ouais. Paraît-il.
Oui, non, il ne faudrait pas réagir. On est fiers de ce qu'on est, on est des musulmans. Et moi je le dis haut et fort, et je l'ai toujours dit haut et fort, et je respecte tout le monde. Il faut que de toute façon, qu'ils nous respectent. Simplement, il ne faut pas sur un bout de papier écrire pour aller chercher des problèmes. C'est nos enfants qui vont avoir des problèmes. Parce que eux, ils vont se bagarrer, ils vont essayer de...
Je vais aller sonder nos auditeurs. Merci Sabrina.
Oui, je vous en prie, au revoir.
Pour ce message. Elle a raison, finalement. C'est vrai. Bon, c'est aussi nous qui devons véhiculer certainement l'image... une image qui est nous-mêmes, voilà, finalement, dans notre quotidien. Fouzia, bonjour. Fouzia.
Bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier vraiment pour cette émission ô combien intéressante, sympathique, qui parle d'elle-même.
Merci beaucoup, Fouzia. Ça fait plaisir.
Moi, je suis... je ne sais même pas si je partage tout ce que j'entends, parce que je vous assure, monsieur, moi, c'est presque...
Appelez-moi Adil, hein. On est entre nous.
Oui, voilà. Ça fait presque 38 ans que je suis en France.
Oui.
Je suis directrice d'une crèche.
Oui.
Je bosse avec des Françaises. Je suis vraiment directrice sur presque 26 professionnelles françaises. On a deux Tunisiennes qui portent cela.
Oui.
On a de l'Afrique noire, des Sénégalaises. Voilà. Oui. Mais vraiment, voilà. Quand j'arrive le matin, ça prend dans une crèche, dans le 15e arrondissement. C'est pas n'importe quelle crèche.
Oui, bien sûr.
Je veux dire, c'est une population qui n'a rien à voir. Mais franchement, je ne me trouve pas. Moi, je suis moi-même. Hein, je représente mon pays qui est l'Algérie, ma religion qui est l'islam, d'une image que je me représente moi. C'est ça l'islam, c'est ça la religion. Je travaille avec une collègue athée. On est contre nous-mêmes. On représente mal cette belle religion. On est tout le temps dans le haram, le rouge à lèvres haram, le verdi haram. Franchement, moi, je m'identifie pas à ces musulmans de maintenant.
Vous avez raison de le rappeler. L'islam est une belle religion d'ouverture.
Mais mon Dieu, Allah Jamil wa Yahibul Jamil. Je suis Arab, Bil Aziz. Je suis en arabe parce que Des fois, c'est petit, vernis, rouge à lèvres. C'est la religion, c'est une beauté, c'est une tolérance, c'est un amour, c'est un partage.
C'est tout ça. Vous avez raison de le... Merci, Fouzia. Vous avez raison de le rappeler. C'est très important. Très, très, très important.
Merci, Fouzia. Même avec Mathieu, on se prend la tête.
Merci à vous.
C'est trop de cette jeunesse.
Merci d'être intervenu. Et je vous... Merci beaucoup. Nous aussi, on vous embrasse. Rachida de Paris. Après, on a Dounia du Blanc-Ménil. On a Amadou de Grenoble. Rachida, bonjour. Je vous accueille, je vais faire la pause. Bonjour, Rachida.
Oui, vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Très bien.
Rachida, écoutez, ce que je vous propose à vous de vous donner la parole, je vais juste marquer une courte pause pub, ou pause tout court, et on se retrouve tout de suite après. Ça vous va ?
Très bien.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h44, Les informés, c'est vous, au 01-53-48-3000.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ça réagit pas mal au standard et c'est une très bonne chose comme chaque soir. Allez, je vais continuer juste de recevoir quelques auditeurs. Après, c'est le face-à-face avec Jimmy Dalidou et Rudy Kazi. Rachida, je vous retrouve.
Oui.
Bonjour.
Oui, tout à fait.
Je vous écoute.
Donc, je voulais intervenir par rapport à ce que j'ai entendu. Ce qui m'a fortement interpellée, c'est le mot révolution employé plusieurs fois par M. Traoré. Donc, je voulais savoir un petit peu ce qu'il mettait derrière ce mot, parce que c'est quand même un mot très fort, hein, révolution. Je crois qu'il a prononcé 3 ou 4 fois. Est-ce qu'on est obligé de faire la révolution pour vivre comme on a envie de vivre ? Parce que révolution, ça sous-entend quand même pas des choses très agréables, on va dire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi qui m'a un peu interpellée, et on l'a vu par rapport à l'âge des intervenants, parce que moi, je suis plutôt de la génération des soixantenaires. Donc, effectivement, on n'a pas du tout la même vision des choses que les plus jeunes. Donc là, effectivement, pratiquer l'islam, enfin, qu'on pratique ou pas, de toute façon, compte tenu de son nom et de son prénom, on va d'office nous dire qu'on est musulman.
Vous êtes donc, assigné à résidence.
Voilà, on est assigné à l'islam, on va dire ça comme ça.
Donc, je récupère les termes qu'on utilise régulièrement.
Tout à fait, c'est exactement ça. Donc c'est effectivement, il y a quand même une... Alors c'est peut-être pas le mot scission est peut-être fort, mais il y a une prise de position et de positionnement qui est totalement différente. Donc les jeunes sont plutôt dans lieu de m'imposer, on doit se battre, et nous on est plutôt dans la philosophie en fait, hein, comme les deux dames qui sont intervenues avant. Je suis musulmane, je l'assume, et les autres j'en ai strictement rien à faire, et je fais ce que j'ai à faire.
C'est peut-être une... Non mais c'est une méthode aussi qui fonctionne bien.
Qui fonctionne bien aussi. Oui, et qui permet peut-être d'éviter les conflits trop violents, parce que la discussion, l'explication.
C'est sûr, quand on voit la guerre en Ukraine, vaut mieux privilégier la concertation plutôt que la guerre. Voilà. Ça, je vous l'accorde.
Voilà.
Merci, Rachida.
De rien.
Et merci de votre fidélité. Je vais les directions Blanc-Ménil. Dounia, bonsoir. Bonjour, Dounia.
Bonsoir, salam alaikum.
Alaikum salam. Quel est votre... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Dounia ?
Je suis responsable d'un laboratoire de contrôle de qualité microbiologique.
Aïe, aïe, aïe. Attention, hein. qu'il n'y a pas une autre épidémie qui vous échappe, hein.
Non,
clochette.
Je
rigole.
Mais plutôt dans le pharmaceutique, donc...
Je vous écoute, Dounia.
Du coup, je n'ai pas suivi l'émission parce que du coup je sors du travail, mais je vais rebondir sur les témoignages que j'ai entendus précédemment. Donc moi j'ai 28 ans et
jeunes en force, j'aime ça.
Du coup moi je voulais rebondir par rapport au fait que faut choisir ses combats et en tant que musulman je pense qu'il faut agir à proximité. Moi, en tout cas, dans mon expérience, quand j'ai vu des choses qui me dérangeaient, je ne pouvais pas me dire « je ne dis rien ». Donc, je suis toujours intervenue pour faire valoir ou si jamais j'entendais un truc qui me dérangeait. Ne serait-ce que des tout petits trucs. Hein. Par exemple, je me souviens d'au lycée, un prof de philo qui, du coup, parlait de l'islam et disait « Mahomet ». Sauf qu'en arabe, « ma », c'est la négation. Donc, ça voudrait dire que celui qui n'est pas digne de louange.
Oui.
Or, on sait qu'en arabe, normalement, c'est Mohammed, celui qui est digne de louange. J'ai attendu, par exemple, à la fin du cours, et je suis allée le voir, je lui ai dit, monsieur, en fait, c'est assez dérangeant que vous parliez, vous dites Mahomet, parce que voilà, et je lui ai expliqué. Et du coup, il m'a remercié, et peut-être que dans ses prochains cours, il fera attention à ce qu'il disait. Et c'est pareil pour tous les autres comportements, des blagues, plusieurs fois, il y a des gens qui font des blagues qui sont vraiment limite islamophobes, et il faut les reprendre, des gens même si on ne part pas en guerre contre eux. Pour moi, on doit agir à proximité, ne serait-ce que par le comportement, en réagissant.
Sous la forme, j'ai bien compris, sous la forme d'une pédagogie. Il faut être pédagogue.
Oui, voilà, pour moi, en tout cas, de par mon expérience, j'ai vu que ça impactait beaucoup plus les gens quand on venait leur voir d'une façon où, calme, posée, et leur expliquer pourquoi, plutôt que, par exemple, de s'énerver et dire à la personne directement « vous êtes islamophobe » ou quoi que ce soit. Et, enfin, voilà, moi, je trouve que c'est beaucoup plus percutant de...
Eh bien, j'aime beaucoup vos points de vue. Ils sont différents, ils sont complémentaires, ils sont réalistes. Ils sont dans notre quotidien. Et la pédagogie paye. Vous avez raison, Donia. Merci, Donia. Portez-vous bien. Et bon courage. 28 ans responsable de laboratoire, c'est beau. Hein. C'est bien, elle doit être brillante, Donia. Comme tous les autres, d'ailleurs. Amadou, bonjour, Amadou, le fidèle des fidèles, des fidèles, des fidèles, des fidèles auditeurs.
Assalamu alaikum, Dil Farkan, assalamu alaikum, les éditeurs de BRFM. Non, mais ce problème, c'est simple comme de tout. C'est-à-dire que la religion, ce n'est pas un outil politique, elle est spirituelle. On ne peut pas se manifester parce que la laïcité, elle est mal présentée. Une seule religion ne peut pas représenter, elle ne peut pas défendre la laïcité. La laïcité, c'est réciproque. Moi, si je suis un Français, je pratique ma religion. Si j'ai un problème religieux, c'est ma famille religieuse, ma famille spirituelle. Je comprends, c'est la communauté religieuse qui devrait assumer notre religion, mais c'est pas les politiques. Est-ce qu'on voit qu'on utilise notre religion pour un outil politique, ou bien les politiques l'utilisent pour un outil politique, et les religieux, et sculptés. Les spirituels ne veulent pas la violence, c'est la paix. Allah a dit de même respecter la nature, toute sa création. C'est pas d'aimer Allah seulement, détruire sa création. Oui. Manifestation, ça ne convient pas à la foi religieuse.
Ben, on a bien compris, Amadou, c'est vrai. Dissocier les deux éléments. Merci, vous êtes très nombreux, très très nombreux à nous appeler. Continuons peut-être à les prendre, on va les prendre. 0153 48 3000. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Jimmy Dalidou, syndicaliste, représentant CGT, mais également un auteur. Bonjour, bonsoir, Jimmy Dalidou.
Bonsoir à tous, ça va.
Face à vous, eh bien, un élu, mais aussi le directeur délégué général de la maire des élus de l'association des maires des élus de France, c'est ça?
L'association des élus de France.
Des élus de France, tout simplement. Ouais. Rudy Kazi, bonjour, comment ça va?
Très bien, cher Rudy.
Eh bien, écoutez, messieurs, tout de suite, ce premier sujet qui continue de faire polémique, vous savez. Eh bien, Adrien Quatennens, vous l'avez suivi, il s'est mis en retrait, avec évidemment sa casquette de coordination donc de la NUPES. Il a décidé de se mettre en retrait, évidemment, par rapport à ce long communiqué dont il explique, il fait part évidemment de ses gestes, il regrette, il fait son mea culpa, il dit effectivement regretter d'avoir tordu la main, etc., son poignet, pardon. La France insoumise dans un état de sidération selon Manon Aubry. Ça, c'est la mise en retrait. Ça a provoqué beaucoup de choses. Alors, elle est la figure, attention, Adrien Quatennens, c'est pas n'importe qui, c'est un cadre, c'est une figure de LFI, c'est même, je dirais même, pour moi, ça n'engage que moi, c'est un peu le fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon. Alors, l'heureux député insoumise a de nouveau relancé le débat. Elle explique que les membres du parti étaient en état de sidération lorsqu'ils ont appris Adrien Quatennens était visé par une main courante pour des faits de violence conjugale envers son épouse. Et d'autres partisans, soutiennent Adrien, disant « on comprend pas ce débat-là, c'est sa vie privée, ça devait pas se mettre dans une vie publique, il n'y a pas de raison, etc. etc. » Alors, j'ouvre les micros, Jimmy Dalidou.
Plutôt d'accord avec ceux qui disent que de toute façon, ce qui s'est passé, alors indépendamment évidemment de ce qui se serait passé une fois concrètement, il était chez lui, ça reste dans un cadre privé.
Mais c'est une personnalité.
Oui, c'est une personne assez politique, mais je pense qu'il faut différencier l'homme politique, connu, ce qui met en exergue politiquement parlant, ce qu'il est dans la France insoumise politiquement parlant, ce qu'il représente dans la NUPES et dans sa formation politique, et ensuite son cadre privé. Je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir. Ensuite, moi, ce qui me pose question, c'est il y a une question qui... Voilà, il y a cet événement, apparemment, ce serait passé il y a un an, à peu près. Alors, comment se fait-il que cet événement est mis en lumière par les médias un an après? Ouais, c'est déjà c'est la première
chose. Ça a fuité.
Ouais, c'est
elle a posé la première courante. Elle a déposé une main courante. Et puis visiblement, c'est pour ça que le tweet de Jean-Luc Mélenchon, quand il fait référence évidemment à la violation aux policiers, etc., c'est pour ça qu'il en parle.
Et puis aussi, il y a aussi le fait que c'est pas le seul. Ces derniers temps, la France Insoumise, et c'est pas, il y a pas eu que le cas Quatennens. Il y a eu le cas Coquerel, Bourhaf. Alors, c'est deuxième question, c'est effectivement, on a l'impression que ces derniers temps, il y a toujours des cas de violence qui sont mis en exergue dans les médias et à chaque fois qu'il y a des personnes.
Ah, du coup, ils sont taxés de donneurs de leçons.
Non, mais je trouve ça. Alors, c'est une question. Je n'affirme rien. J'ai pas d'éléments objectifs pour affirmer une telle chose. Mais c'est une question. C'est bizarre que lorsque des personnalités politiques commencent à grimper dans la sphère politique et deviennent une opposition au pouvoir. Bah, comme par hasard, vous avez des tout un tas d'affaires qui commencent, et souvent ce sont des vieilles affaires, comme là, c'est une affaire qui s'est passée il y a un an, des affaires qui ressortent des tiroirs, qui sont mis en lumière par les médias, et dans lesquelles vous retrouvez souvent des femmes. Alors, encore une fois, s'il y a eu une violence, bah, effectivement, il y a une justice qui est là, et qui, normalement, devrait faire son travail. Il y a eu une main courante.
Vous parlez de justice, justement, le parquet de Lille confirme l'ouverture d'une enquête visant le député La France Insoumise qui a annoncé hier son retrait. Donc le parquet de Lille confirme l'ouverture d'une enquête. Rudy Kazi.
Bah, écoutez, moi ce que je trouve déplorable là-dedans, du coup, c'est que il y a une carrière en fait qui s'arrête puisqu'il a décidé de prendre des distances avec la vie politique. Alors comme vous le disiez, avec l'avenir devant lui, c'est quand même un jeune député, fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon. Donc on lui promettait quand même une grande carrière. Moi, je suis pas du tout la France Insoumise. Voilà, moi je suis plutôt du centre droit, etc. Mais j'aime bien analyser la vie politique et je trouve que c'était quelqu'un, on va pas parler au passé, monsieur n'est pas mort, mais je trouve que c'est quelqu'un quand même qui a une belle intelligence, je trouve. Alors après des sujets politiques sur lesquels on peut être opposé, mais je trouve que c'est quelqu'un qui, du coup, dans ce nombre assez important de nouveaux élus de la NUPES, quelqu'un qui sort un petit peu du lot, même si lui était déjà précédemment élu. Maintenant, par rapport à ce qui lui arrive, c'est vrai que c'est sa vie privée. C'est vrai que du coup, alors après, il y a toujours un petit conflit là-dessus parce que c'est une personnalité politique.
Est-ce ouais, que Rudy Kazi, c'est sa vie privée, mais en même temps, c'est une personnalité publique. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes vous-même élu.
Je suis. Ben justement, c'est parce que je suis élu que.
Demain,
que
vous avez un problème avec votre femme. Si vous giflez votre femme, ben ça fera
Ce qui compte par rapport aux personnalités publiques, c'est les informations qu'elle divulgue elle-même en tant que personnalité publique. Ce ne sont pas les informations qui relèvent du privé. Celles qui relèvent du privé, elles doivent rester dans le privé. Je ne suis pas en train de dire du coup que c'est bien qu'il ait.
Donc il peut continuer à battre sa femme et on n'en parle pas. Non, c'est sa vie privée. On continuera à dire. C'est sa vie privée.
Vous dites ce que je n'ai pas dit. Je suis marié depuis plus de 14 ans. J'aime beaucoup ma femme. J'ai 6 enfants. Donc la vie de famille pour moi, c'est très, très, très important. Je suis en train de dissocier. Pardon, juge, vraiment, je termine mon raisonnement. Je suis en train de dissocier la dimension publique de la dimension privée. Maintenant, par rapport à la France Insoumise, quand même, il faut pointer du doigt quelque chose, c'est qu'ils sont souvent les premiers à pointer du doigt des responsables politiques qui sont coupables, ou en tout cas sont suspectés de violences. Voilà.
Ils se sont pas gênés pour taper sur Darmanin, par exemple. Souvenez-vous.
Exactement, et quand on regarde les réactions, par exemple, de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, elle a mis plus de 7 jours, ou 5 ou 7 jours pour se prononcer, à la différence de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, à l'annonce donc du retrait de la vie politique de Quatennens, qui s'est prononcé tout de suite. Donc, on va pas être méchant, c'est de la politique politicienne, on s'en fiche de tout ça. Ce qui est important, c'est la vérité des choses. C'est-à-dire, en fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Lorsque c'est pas bien, on défend ce qui est bien et on défend pas ce qui n'est pas bien. Peu importe qu'on soit amis, pas amis, etc. L'autre chose sur laquelle je terminerai, c'est toujours sur l'aspect, en fait, du tribunal médiatique. Pourquoi est-ce qu'il se retire de la vie politique? Il a pas encore été mis en examen, l'enquête vient à peine de débuter.
Monsieur Rudy Kazi, tout simplement, c'est un cadre de LFI, et parce qu'il doit montrer l'exemple.
Il n'a pas encore été condamné. C'est ça le problème, qu'on a un tribunal médiatique, politico-médiatique, qui du coup s'oppose et prend par-dessus, on va dire, la jambe, le vrai tribunal, le tribunal
judiciaire. Mais il y a une réalité, il y a un factuel.
Mais il y a une vérité factuelle, allons jusqu'à la mise en examen, au moins. Parce que là, il y a une main courante.
Ah, je vous suis.
Il y a des lois dans ce pays, il faut attendre quand même qu'il y ait une mise en examen. Parce que la mise en examen, c'est quoi? C'est des faits concordants
Les médias n'auraient pas traité cette affaire-là, ça aurait coulé de source normale. Le mec qui gifle sa femme, ça passe tranquille. Quand il est à la poste.
Vous mettez en retrait la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté, c'est le fait d'avoir des droits. À partir du moment où il n'est pas condamné, il a le droit de
continuer à exercer. Ce qui me gêne, c'est que c'est un cas de LFI et qui parle régulièrement des violences faites aux femmes.
Sur ça, on est d'accord. Mais le cas quand même des tribunaux médiatiques, ce n'est pas une bonne chose. Et les filles, on a.
La question qui se pose, c'est la question concrètement, est-ce que la procédure de la main courante, la procédure de la main courante a-t-elle besoin des commentaires et des critiques des médias ? Point barre. Mmh. Donc non, la procédure de la main courante n'a pas besoin des commentaires et des critiques des médias.
Ça,
moi, ça me saoule d'avoir des médias qui font pas leur travail dans ce pays. C'est pas le boulot des médias de mettre en avant ce qui s'est passé derrière la porte de Monsieur Quatennens.
Sauf si encore une fois, s'il y a eu une mise en examen,
encore moi, ce qui me pose
regardez la preuve. C'est que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup réagir.
Ce n'est pas leur travail, les médias.
Attendez, s'il vous plaît, messieurs, et Jim, on m'en voudra pas. La clochette, on l'utilise vraiment quand cas où il y a de cacophonie. Je reçois plusieurs messages. Il y en a un qui m'interpelle. Justement, vous le connaissez. Rafik me dit. C'est marrant, ils sont les premiers à défendre les lois contre le sexisme, la violence conjugale, et quand ça vient de LFI, eh ben c'est du privé. Bah, je suis d'accord avec
moi. Je suis d'accord.
Bah non, vous avez dit non, il faut que ça arrête. Il faut pas de tribunal médiatique, il faut pas de.
J'ai bien dit que Sandrine Rousseau a mis de 7 jours à se prononcer, alors qu'habituellement, c'est la première à monter au créneau. Donc, effectivement, il y a une forme d'hypocrisie là-dessus, parce que ça touche un proche de leur famille politique. Moi, ce qui me dérange, c'est le tribunal médiatique qui se met en place pour condamner des personnes avant même que la justice ne le fasse, et que parfois, la justice.
C'est les premiers à monter au créneau.
Considérer que parfois la justice met du temps à condamner des personnes, des personnalités politiques qui parfois elles-mêmes sont coupables. Attendez, on sait très bien que on dit toujours que les politiques sont des justiciables comme les autres. Regardez sur ces dernières années, que ce soit pour l'affaire Fillon ou bien l'affaire,
etc. C'est que vous dites un tribunal politique médiatique, sauf que si les médias l'avaient pas traité, ce serait passé tranquille.
Ben non.
Ben si.
Ben non.
Ben si, je vous dis si.
Ben ce serait pas passé tranquille.
Ben si, il aurait pas démissionné de son poste de coordination, il aurait géré sa vie politique normalement.
Encore une fois, moi ce que je souhaiterais, c'est que les personnes qui doivent être condamnées soient condamnées, mais que ce soit pas les médias qui condamnent, parce qu'à ce moment-là, les médias, ils peuvent faire
mais
ce
les médias,
ils
n'ont
ils
été...
peuvent casser mais des les... carrières politiques, ils peuvent, non, à ce moment-là, non, faut laisser chacun à sa place. Les médias doivent parler de médias. Et vous en convenez que dans des médias d'information, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas toujours les bonnes informations qu'on reçoit. Regardez, là, on parle que de, alors effectivement, la reine d'Angleterre, mea culpa, c'est difficile, etc. pour ce pays. Mais regardez, du coup, les problèmes d'énergie, on n'en parle plus. De pauvreté, on n'en parle plus. Mais non, on n'en parle plus, Adil, depuis 7 jours. Bon. Regardez, donc les médias choisissent des lignes éditoriales qui, du coup, parfois, en fait, ne nous permettent pas d'avoir les informations qu'on veut. Donc arrêtons de diriger un petit peu les carrières des politiciens.
Autre polémique, c'est que.
Laissons la justice se prononcer.
Autre polémique, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a tweeté, il a dit j'apporte tout mon soutien à Adrien Quatennens, etc. Je suis à tes côtés, panani, nanana. Mais sauf qu'en même temps, il oublie sa compagne, sa femme, Céline. Et il fait un rétro-pédalage, messieurs. Et je lis son tweet. Mmh. Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable. Dans tous les cas, Adrien l'assume, c'est bien. Rétropédalage.
Bah après, on peut pas l'en vouloir d'être solidaire de son camarade, hein, quelle que soit l'orientation politique.
Mais qui est concerné? C'est pas Adrien.
Franchement, les auditeurs qui nous écoutent, ils sont en train de se dire, franchement, ils en ont un peu en affaire de l'affaire Quatennens.
Je crois pas.
Ils se disent, franchement.
Si, c'est des élus. Je crois pas que les auditeurs se disent ça. Franchement, Jimmy Dalidou, non. Bah tiens, je vais solliciter nos auditeurs. Ouais. Est-ce que vous en avez rien à cirer? Voilà, ouais. Je vais pardonner moi la trivialité du truc. 01-53-48-3000. Est-ce que c'est affaire, vous? Est-ce que c'est affaire, vous parle, ou est-ce que vous êtes indifférent?
01-53-48-3000. Moi, je pense que dans ce cas précis, ce qui pose problème, c'est l'hypocrisie politique. Lorsqu'on prend des postures politiques à défendre telle ou telle chose et que, du coup, quand ça arrive près de chez soi ou quand on est concerné, là, on est dérangé. Le problème, en fait, c'est le bon sens. C'est ce qui est bien, ce qui est pas bien. Frapper sa femme, c'est pas bien, c'est grave même. Donc, pourquoi quand il s'agit des autres, on tape plus facilement et quand
mais
il s'agit de soi, on a du mal, etc., à gérer, etc.
Sont les premiers à crier, surtout les
trois. C'est ça, le problème, c'est la question de la justice.
La thématique concernée. Voilà. Ils ont raison d'ailleurs de le faire.
Si
sur la violence faite aux femmes.
On doit condamner, que ce soit près de sa porte, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans la maison d'un autre. On doit le condamner, c'est tout. Et à un moment donné, il faut être sincère avec ces choses-là, parce que sinon, le peuple, le français, ne comprenne pas qu'il y ait des positions à géométrie variable.
Ouais. Bah tiens, On va consulter nos auditeurs. Est-ce que vous êtes indifférent? Est-ce que franchement,
on, c'est vrai que des fois, on a l'impression que les médias sont plutôt des co-gestionnaires de la jurisprudence.
Les médias, c'est pas vraiment le sensationnalisme. Donc, du coup, ils se jettent sur ces choses-là.
Vous avez dit, on consulte nos auditeurs. Tariq, du 94. Bonjour, Tariq.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de quelle ville, Tariq?
Alors, je ne appelle pas du 94, donc du Val d'Oise plutôt, de Saint-Leu-la-Forêt.
Saint-Leu-la-Forêt, vous faites quoi dans la vie, mon cher Tariq?
Je suis directeur régional.
Directeur régional de quoi?
Alors, je m'occupe de magasins dans la distribution. Voilà, des magasins spécialisés. Ah,
quand on dit que nos auditeurs, regardez, brillants, tous les parcours qu'on a, vous savez, ouais.
Des laborantins, des...
Allez, Tariq, on vous écoute. Est-ce que vous êtes indifférent, évidemment, à cette affaire?
Alors, écoutez, moi, je ne suis pas indifférent à cette affaire, pour la simple raison que, quelle que soit d'ailleurs la durée, parce qu'on évoque le fait que ça soit un an, mais quel que soit d'ailleurs le nombre de mois ou d'années où l'affaire a eu lieu, c'est important en tout cas de ressortir des affaires, parce que ces personnes-là ont une image à porter et une exemplarité à porter. Donc, à partir du moment où on a une exemplarité à porter...
Merci, Tariq, de le préciser. Et ils ont une responsabilité, voilà, messieurs.
Ils ont une responsabilité. Ça veut dire que derrière, parce que nos enfants, que ce soit nos enfants ou nous-mêmes, bah, à un moment donné, on a un regard, et on porte un regard sur des personnes que représentent, en tout cas, qui veulent représenter l'État.
Bravo, et donc, Tariq, moi, je vous applaudis, moi.
On doit, en tout cas, ils se doivent de d'être exemplaires. Maintenant, derrière... En plus, il reconnaît les faits et il reconnaît le fait qu'effectivement, il a agi, il a mal agi.
Oui, je pense qu'il est sincère. Hein. Je pense qu'il est vraiment sincère. Moi, j'ai lu son long communiqué. On le sent franchement peiné par cette histoire. Ça le travaille. Moi, je sais par quelques proches que j'ai eu au téléphone de LFI, ils m'ont dit vraiment, il le regrette profondément et foncièrement.
Donc, c'est important qu'il le reconnaisse d'ailleurs et bravo. Félicite quelqu'un qui reconnaît les faits. Et qu'il dit que ce n'est pas bien et j'aurais jamais dû le faire. Et en même temps, ça donne l'exemplarité aux autres. Ça veut dire que derrière, bah, ça permet de se dire ce n'est pas normal, ce n'est pas la norme, ça c'est pas la norme. Et on ne doit pas agir de telle sorte.
Oui, merci Tariq. Vous avez raison. Voilà. Il doit prendre ses responsabilités. C'est à une personnalité publique, il est élu, et il est là pour le faire. Et c'est vrai.
Exactement.
Merci Tariq. Merci à vous. Voilà, ça fait réagir. 01 53 48 3000. Merci.
Dans son communiqué, il a reconnu avoir frappé son épouse.
Oui.
Ou pas.
Ouais. Oui. Il va plus loin même, hein, d'ailleurs.
Allez, laissons faire la justice, après la bonne décision.
Et non, mais après, oui. Mais après, dans la mesure où, effectivement, où il a fait des aveux, là, c'est plus des aveux, en fait, qui sont frappés par le secret de la procédure de police. Là, c'est des aveux publics. Donc, je comprends, en fait, sa décision, finale de prendre du recul avec la vie politique, parce que lui-même a avoué ce qui s'est passé. Donc, finalement, même la procédure policière, elle ira très vite. Mais par contre, ce qui est dommage, effectivement, c'est ce tribunal médiatique qui se met. Alors après, ça, c'est un cas, mais dans
le voyeurisme médiatique.
C'est
du voyeurisme médiatique, je dirais.
Ben, on a bien vu des carrières politiques se défaire, alors même que le
mais sur des faits, mon cher Rudy.
Le jugement n'était pas.
01 53 48 3000. Je vous attends, non, évidemment, concernant ce sujet. Est-ce que vous êtes indifférent ou est-ce que ça vous concerne? 01 53 48 3000.
Là, dans l'affaire Katniss, il a avoué, donc il y a des faits concrets.
Bah oui.
Mais il y a d'autres cas politiques où il n'y a pas eu de faits concrets, où il n'y a pas eu de jugement, et les carrières étaient déjà très entamées. Moi, c'est ça que je déplore. Maintenant, cette hypocrisie politique aussi, c'est un deuxième sujet, ça aussi, ça me dérange.
Allez,
de voir des gens toujours défendre de se battre contre les violences faites aux femmes, puis quand ça arrive dans son cercle à soi, voilà, on trouve des circonstances atténuantes, etc. C'est détestable.
Autre sujet, 01 53 48 3000, je vous attends évidemment. Est-ce que vous êtes concerné par cette affaire d'Adrien Quatennens? Est-ce que ça vous parle? Voilà, et quand on parle évidemment, on dit souvent régulièrement que la NUPES, que surtout LFI, se place en tant que donneur de leçons. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, pour le coup, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a bien fait de soutenir Adrien Quatennens, qui lui, rappelons-le, est un très 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 proche de Jean-Luc Mélenchon? La réforme des retraites, ça continue, ça polémique. Ça fait parler, ça fait débat. Laurent Berger, d'accord, explique que la CFDT s'opposera à une réforme qui passera par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est très, très, très rare d'entendre Laurent Berger parler comme ça, les amis. On va parler à notre syndicaliste.
Ouais, alors, sujet important du coup, parce que effectivement.
C'est rare de l'entendre parler comme ça.
Ouais, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez. Il y a des luttes de courant, effectivement, entre les organisations syndicales et à l'intérieur des organisations syndicales. Mais je crois qu'à un moment, même si on n'est pas tous d'accord sur l'orientation syndicale et notre ligne de lutte, à un moment, on sait se mettre d'accord lorsqu'on sent que le peuple travailleur est véritablement en danger, lorsqu'une partie, lorsque les Français sont en danger, parce que la majorité des Français sont travailleurs. Et là, on arrive à un moment où, que les auditeurs comprennent bien, c'est que cette réforme des retraites est considérablement, elle matérialise l'inégalité sociale.
Qu'est-ce que vous voulez
au
dire
sens
par là
pur du terme.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Faut bien comprendre.
Je vais vous voir arriver.
Qu'après cette réforme cette retraite à points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous passerions à un régime à prestations définies. Actuellement, on passerait à un régime à cotisations définies. Concrètement, le travailleur français va savoir, il sera conscient de ce qu'il va cotiser, mais il ne sait pas combien il va toucher. Vous allez cumuler des points. Des points qui, vous allez les cumuler tout au long de votre carrière. Les points seront liquidés à la fin de votre carrière. Ils ouvriront des droits pour avoir une pension de retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces points seront soumis à une valeur de service. C'est-à-dire une valeur. Ces points ont bien une valeur.
Ça peut être monnayé, non?
Bah oui, ils vont être achetés. Par exemple, je prends un exemple sur un salaire de 2000 euros. Si vous cotisez par mois 10%, sous forme de cotisation sociale 10%, qui est égal à peu près 200 euros sur la base d'un salaire de 2000 euros brut, si le prix d'achat de votre point, du point est de 2 euros, vous allez acheter, entre guillemets, 100 points. 100, parce que 100 fois 2 euros, ça fait, est égal à 200 euros. Bon, vous avez cumulé. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à la fin de votre carrière, cette valeur de service sera conditionnée par plusieurs éléments.
Ouais.
Le premier élément, c'est que la valeur sera fluctuante par le PIB. La valeur sera fluctuante par la situation économique du pays. Et ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, lorsque vous travaillez, les moins bonnes années sont prises en compte dans vos cotisations, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. Avec la retraite à points, les moins bonnes années, c'est-à-dire les pires années dans lesquelles vous avez travaillé, c'est-à-dire les moments où vous avez touché le moins de thunes, ces moins bonnes années seront comptabilisées dans le calcul de votre pension. Et tous ces éléments, d'une manière générale, vont abaisser mécaniquement les pensions de retraite.
Si vous avez compris quelque chose, vous venez. Est-ce que, justement, avant d'écouter Rudy Kazi qui va nous livrer son commentaire, je voudrais aller à Toulouse. Driss, qui nous appelle. Bonjour, Driss.
Oui, bonjour, monsieur.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Driss?
Je suis jeune chef d'entreprise.
Chef d'entreprise, ça va, ça se passe bien?
Oui, jusqu'à présent, je touche le bois, mais ça se passe très bien.
Alors, on vous écoute, cher monsieur, cher Driss.
Merci beaucoup. En fait, je voulais partager mon avis par rapport à ça. Après, je sais que pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, je le précise. Moi, je suis plutôt d'avis de la nouvelle réforme des retraites qui est en cours d'instauration, en cours d'application. Tout simplement, moi je suis pour tout ce qui est renouveau, nouvelle réforme, parce que déjà ça permet d'avoir un nouveau souffle par rapport au système de régime de retraite. Oui. Donc pourquoi, enfin c'est vrai que ça a marché à un moment donné, mais pourquoi pas essayer d'améliorer? Donc c'est ça que pour moi je pense que le but de cette nouvelle réforme, c'est d'améliorer ce qui est déjà en place. Moi, j'essaie de toujours positiver. C'est mon point de vue, en tout cas. Après, j'ai aussi un autre point de vue. C'est dans le sens où on ne travaille pas toute la vie pour attendre la retraite. Moi, par exemple, je suis jeune, je ne veux pas travailler. Enfin, je n'ai pas en tête que ma cotisation pour la retraite. Il faut aussi travailler pour mettre de côté et pas attendre que la retraite. Parce qu'on est dans une époque actuellement où il y a plein de crises, notamment la crise en Ukraine, et on ne sait pas qu'est-ce que demain va nous préparer, de quoi demain sera fait. Donc, pourquoi parler que retraite, il n'y a pas que ça qui est peut-être le plus urgent. Il y a d'autres choses plus urgentes que ça. Après,
C'est pas faux, effectivement. Eh bien, écoutez, on va poser la question. Merci, Driss, de votre réaction.
Merci à vous et passez une bonne soirée.
Bonne soirée. Rudy Kazi.
J'aime bien ce que vient de dire l'éditeur Driss par rapport à une réforme des retraites que Emmanuel Macron veut absolument faire passer maintenant. On parle de la faire passer éventuellement pour le mois d'octobre ou le mois de, enfin, dans cette zone-là. Alors qu'effectivement, il y a une récession qui pointe le bout de son nez pour 2023-2024, due effectivement aux conséquences des confinements français mais internationaux aussi, dû au Covid-19. Il y a
l'augmentation
du prix du gaz, etc. Oui, mais il y a aussi l'augmentation.
T'as oublié de dire que c'est aussi la faute du fait que le capital s'enrichit toujours plus, et c'est pour ça qu'il a besoin de faire passer les retraites.
Mais
il a besoin de capitaliser sur la vie des Français.
Si je puis juste terminer mon raisonnement.
Il faut le dire, il n'y a pas que le Covid-19.
Parler, mais peut-être que je vais en parler, il faut juste être un peu attentif.
Parce que si on vous écoute,
d'ailleurs,
le
COVID-19. On en parlait. Des entreprises du CAC 40 qui ont enregistré plusieurs milliards de bénéfices, dont Total 5 milliards. Enfin bref, je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour dire ce qui est important d'être dit. Moi, je pense qu'effectivement, cette réforme des retraites n'est pas urgente en principe. Pourquoi ? Parce qu'on nous annonce comme quoi le système est déficitaire, etc. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Là, il y a un rapport, le rapport donc du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti cette semaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des réformes des retraites maintenant. C'est parce que ce rapport, d'ailleurs, dit que le système est excédentaire. Ça veut dire en fait que tel que les choses sont financées, il y a suffisamment d'argent dans le système des retraites. C'est vrai que jusqu'à un certain nombre d'années, il y avait ce problème effectivement des nombres de cotisés, de cotisants qui devenaient inférieurs au nombre donc de personnes qui étaient proches de partir à la retraite. Donc du coup, il y avait ce déséquilibre là. Mais aujourd'hui, le système est excédentaire. D'ailleurs, il y a d'autres choses que les gens ne savent pas. Il y a le fonds de réserve de la retraite qui avait été mis en place par Jospin à l'époque, qui est plein aujourd'hui de 35 milliards d'euros. Donc ça veut dire que on peut financer les retraites avec des fonds de retraite qui ont été mis en place, et de façon systémique, la démographie est en train de remonter. Donc ça veut dire mécaniquement, on aura davantage de personnes qui seront en capacité de pouvoir cotiser selon le principe actuel du régime des retraites.
Le débat continue, Jimmy Dalidou, en tout cas, voilà, les choses sont en train
de se remettre en place a priori mécaniquement. Donc il y a d'autres raisons à cette réforme des retraites, on en parlera.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Mais également avec Jimmy Dalidou, représentant syndical CGT, mais également auteur. Face à lui, l'autre élu, s'il s'appelle Rudy Kazi, que vous connaissez aussi, dernière ligne droite, 19h23, les informés.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face continue. On est ensemble jusqu'à 19h30. Alors, parole d'abord à Rudy Kazi et puis Jimmy Dalidou qui me demande qu'il veut tout simplement réagir aux propos de Jimmy.
De Rudy. Rudy. Mais je pense qu'aussi...
Parce que ça reste difficile. Jimmy qui réagit à Jimmy.
Quoique, si
le mec, il doit être schizophrène. Est-ce qu'il se freine, le mec, tu sais ? Non, mais je me parle à moi-même. Attendez, il y a l'autre.
Alors donc oui, par rapport à cette réforme des retraites, je pense qu'on peut aussi penser que le gouvernement actuel, le président de la République, a son agenda. C'est vrai que chaque président cherche à avoir la réforme qui va être la réforme emblématique
de son
mandat. Il veut marquer, oui, certainement. Après, marquer l'histoire, c'est bien, mais de quelle manière? Nelson Mandela a marqué l'histoire, c'est fameux.
Nelson Mandela est un grand monsieur.
Mais même Kennedy a marqué l'histoire d'une certaine manière. Même Barack Obama a, pas toujours de bonne manière aussi. Ouais. Non, mais après, je veux dire, pour voir marquer l'histoire, il faut avoir une vision. C'est les visions qui marquent l'histoire. Et je trouve que pour le moment,
c'est les pensées qui marquent l'histoire.
Non, c'est pas la pensée.
Si la
pensée devient vivante, c'est que
c'est pas pour ça que je voulais revenir sur ce que disais par rapport à la démographie.
Allez-y.
Que tu parlais de démographie.
Je suis juste terminé, j'ai pas terminé.
Alors en deux secondes, allez-y, parce que sinon on va. Non, mais sinon après je vais en antenne.
Respectez ma parole.
Allez-y, mais faut aller vite.
Mais non, mais c'est pas une volonté de couper.
En fait, tu parles de la démographie. Il y a par rapport aux cotisations.
Allez-y, s'il vous plaît, Rudy Kazi.
Ce que j'ai envie de dire et que je vais dire, c'est que le gouvernement a un agenda qui est celui, effectivement, de pouvoir placer...
C'est l'agenda du capital, l'agenda du gouvernement.
C'est possible.
Si, c'est l'agenda du capital.
Ah, attendez, je vous donne la parole.
Non, mais il a besoin de cogner sur quelqu'un.
Je vais expliquer des choses, mais il faut pouvoir les expliquer, en fait.
D'accord, merci pour cet enseignement.
Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer.
Ensuite, moi, je pense que... Après, ce qui est dit, a priori, objectivement, c'est qu'il compte, effectivement, sur cette réforme réforme des retraites pour pouvoir financer, a priori, la reprise de l'économie et de, comment dire, de miser et de, d'investir dans la création d'emplois.
T'aurais dû revenir sur la démographie.
Donc,
je vous donne la parole.
Non, mais.
À un moment donné, il faut respecter les gens.
Non, mais Adil, à un moment donné, il faut respecter les gens.
Ah oui, mais moi, je ne vous ai pas coupé.
Vous n'êtes pas dans votre émission.
Je suis en train de te dire.
Oui, mais d'accord,
que
mais dans ce cas, laissez-moi finir. Vous allez parler. Vous n'êtes pas dans votre émission.
Si tu parles de démographie et que tu parles pas de cotisation par le travail,
on est dans une discussion, on est dans un débat, on n'est pas
à mettre en exergue.
Finissez, mais court, parce que là, vous êtes trop long.
Mais je suis pas trop long, on me coupe à chaque minute.
Allez-y, s'il vous plaît. Je vais rendre l'antenne, il va même pas pouvoir.
Il faut parler aussi des conquêtes sociales.
Il avait qu'à pas me couper. Allez, écoutez, messieurs. Respecter la parole des gens. Donc voilà, moi je pense que le président a cet agenda-là. Maintenant, moi,
l'agenda du capital, c'est
arrêté.
Moi, c'est franchement, c'est pas tenable. Cette réforme-là, moi, j'y suis pas forcément favorable parce que c'est vrai qu'elle nous amène aussi vers la retraite à capitalisation, avec effectivement des grands groupes qui seront en capacité de pouvoir en fait récupérer une partie de cotisation des très hauts cadres qui à partir d'un certain point de cotisation vont pouvoir retirer leur
vie. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord, dites-nous maintenant, déroulez ce que vous voulez dire.
Tu parles de démographie, mais la démographie, ce qu'on appelle le fait qu'il y a une densité de la population, la démographie, etc., etc. Bah, et tu parles de la cotisation. La cotisation, c'est la cotisation par le travail. Le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, la France, elle ne produit plus ou quasiment plus. Donc, si tu ne cotises pas assez par le travail, dans le même temps, si tu as une démographie qui augmente, tu vas avoir un sacré problème parce que cette contradiction-là, tu ne pourras pas la résorber. Et je reviendrai aussi sur le deuxième point qui est que il y a eu des conquêtes sociales qu'on a appelé les conquêtes sociales par le développement de la lutte des classes. C'est ça qu'il fallait faire. Et c'est les médias, s'il vous plaît, les médias, ils vous ont bien baisé la gueule parce qu'ils vous ont parlé de régimes spéciaux.
Ne soyez pas vulgaire.
On ne parlait pas de régimes.
On fait de la radio.
Ce n'était pas.
Ayez une responsabilité. Ne soyez pas vulgaire, s'il vous plaît.
Il fallait étendre à la majorité de la population française.
Je ne sais pas qui parle. Mais il me dit que les médias, ils ont baisé la gueule de qui?
Ne disons pas. Ne parlons pas comme ça. Ne parlons pas comme ça.
On va dire que les médias ont retourné la subjectivité des Français. Non. On va dire ça.
Jimmy Dalidou, est-ce que vous voulez bien utiliser une autre expression?
Ton discours, il est pompeux, franchement.
Je vous parle, Jimmy.
Parce que moi, je pense qu'il y a aussi un élément.
Je vous parle.
Vous êtes en train de vous disqualifier tout seul.
Vous pouvez utiliser un autre mot.
Non, mais il y a un élément important. Il y a un élément important que les médias n'ont pas fait.
On a une responsabilité à la radio.
Moi, je ne reviens pas dans cette émission. C'est pour débattre. C'est même pas un débat avec des gens comme ça.
Je reviendrai sur deux éléments importants. Non, je réitère le fait que les médias ont dit n'importe quoi et ont semé la confusion entre, je le répète encore une fois, entre les conquêtes, ce qu'était réellement les régimes spéciaux, qui étaient en réalité des conquêtes sociales que la classe ouvrière et les couches populaires avaient décrochées lors de la lutte des classes. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait étendre les conquêtes sociales à la majorité de la population.
Merci,
donc,
messieurs.
Donc, ils vous ont bien eu. Et donc, on se retrouve tous le 29 septembre dans la rue pour une grande manifestation.
Attendez, on ne vous entend pas, Redi, là. Vous dites quoi?
Votre point de vue, on peut l'entendre, mais apprenez à respecter les personnes et à ne pas être aussi émotif sur un plateau.
Merci, monsieur. Absolument.
Pas de problème.
Merci,
vous avez votre point de vue, j'ai le mien, il n'y a pas de problème. Mais
merci,
Redi
Kazi. L'événement,
sinon, moi,
mercredi,
je reviens pas dans
il
votre,
est ouvert au public, l'événement, mercredi.
Alors, donc, l'événement, c'est le 21 septembre, la rentrée des élus. On attend à peu près 200 élus. Et c'est à l'espace Champéret, en partenariat avec le salon Innopolis Expo. Plus de 3 000-4 000 visiteurs, des partenariats publics, des institutionnels, des startups qui se retrouvent autour du concept de la ville durable.
Merci.
C'est un événement très, très intéressant.
À ne pas manquer. Merci à Rudy. Merci à Jimmy Dalidou, représentant CGT, syndicaliste, mes auteurs. Vous l'aurez compris, le débat ne fait que se poursuivre. C'est vrai. À la réalisation, c'était Giovanni. Merci aux nombreux auditeurs. Ça me touche particulièrement parce que vous êtes nombreux de plus en plus au 0153 48 3000. Bilal Nenman, 20-21 avec Thème Sport. Ensuite Vanessa, 21-23. Et quant à moi, demain, rendez-vous à ne pas manquer à 18h, sans faute et avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.